Deutsche Welle Carrefour Europe.
Les marchés financiers font de nouveau confiance au Portugal. Après une cure d'austérité sans pareil, imposée entre autres par Bruxelles, le pays se redresse donc. Mais le chômage frappe toujours. Alors quel est le sentiment des Portugais vis-à-vis de l'Europe? Nous irons sur place. Les européennes, coup d'envoi dans moins d'un mois. Les ouvrages se multiplient pour évoquer l'avenir de la construction européenne. Mais le débat public n'existe pas. Alors pourquoi cela est-il inquiétant? Pour nous répondre, un économiste renommé, auteur du livre intitulé « Europe, réveille-toi » qui vient de paraître. Merci d'être fidèle à cette émission. Au micro, Elisabeth Cadeau. Le Portugal sortira en mai du plan d'ajustement mis en place par la Troïka, c'est-à-dire la Banque Centrale Européenne, le Fonds Monétaire International et l'Union Européenne, tout cela en échange d'un prêt de 78 milliards d'euros. Le gouvernement a imposé une austérité sans précédent au pays et les Portugais ont vu leur situation se dégrader. Pour la première fois depuis l'adhésion du pays en 1986, pointe un désenchantement à l'égard de l'Europe. Les jeunes générations à qui on avait promis un bel avenir sont les plus sceptiques. Mais l'abstention pourrait être la seule arme utilisée pour exprimer un mécontentement grandissant. Reportage depuis Lisbonne de Marilyn Darcy.
La crise au Portugal affecte particulièrement les jeunes. Ils constituent désormais 40% des demandeurs d'emploi. Désemparés, ils sont souvent plus pauvres que la génération de leurs parents. C'est le cas de Patricia, à Lisbonne, une jeune femme qui a dû accepter un boulot de secrétaire payé au SMIG, 420 euros net mensuels.
C'est la galère, je ne peux pas faire autrement. Si le mois se déroule sans anicroche, tout va bien. Mais parfois, il y a des imprévus. Si je dois aller chez le médecin et que je dois acheter un médicament à 20 euros, eh bien, je suis coincée. 20 euros, je ne les ai pas.
Beaucoup de jeunes de la génération vivent dans la précarité, parfois au seuil de la pauvreté. Compter les centimes, miser sur l'aide des parents, vivre de petits boulots, un quotidien triste et limité. À Porto, Francisco, lui, a fini par trouver un job dans la communication. Mais il se dit déçu par une Europe qui n'a pas tenu ses promesses.
Ce n'est pas à ça qu'on pensait ou espérait de la création de l'Europe. C'est évident que certains pays doivent avoir plus de poids que d'autres. Mais ça n'a pas de sens que pendant une campagne électorale allemande, on discute de l'avenir du Portugal, mais aussi de la Grèce ou de l'Espagne ou d'autres. On n'a pas de poids.
Alfredo, lui, est diplômé de sciences sociales et se lance dans la réinsertion des sans-abri. Le jeune homme ne veut pas minimiser le rôle de chacun dans l'Europe, mais il aimerait une meilleure solidarité.
L'Europe, c'est possible avec un autre modèle. Ce que je sais de l'idée initiale, c'était un objectif très différent, davantage apporté par la solidarité entre les nations. Et je pense que sans nier la spécificité de chaque pays, chaque nation, il faut se diriger vers quelque chose de plus homogène, des politiques fiscales plus fortes et plus homogènes entre tous les États membres.
Les Portugais auraient aimé avoir affaire aux grands frères bienveillants, mais l'Europe joue plutôt les pères fouettards. António Costa Pinto, politologue, professeur à l'Institut des sciences sociales de Lisbonne.
Les Portugais ont une vision un peu instrumentale de l'Union européenne. Ça veut dire l'euro-optimisme des Portugais dans les années 90 a beaucoup à voir avec l'association entre Union européenne et progrès, développement économique. Et évidemment, depuis la crise, surtout depuis la crise de 2008, les Portugais ont une autre association entre Union européenne et crise, appauvrissement, diminution des salaires, augmentation du chômage, etc. Et c'est clair que, par exemple, autour de entre 18, 20, 22%, des Portugais ont déjà des sentiments anti-européens.
Pour l'instant, seuls les communistes fédèrent cette montée du mécontentement anti-européen, sans doute aussi parce que le Portugal dispose de ressorts particuliers pour résister. Antonio Costa Pinto.
Le Portugal, c'est un pays très homogène du point de vue politique, du point de vue de l'identité nationale, et ça aide. Portugal, c'est un pays où l'immigration fait partie de la structure de la société portugaise depuis le 19e siècle. Et aussi, après la décolonisation, Portugal et l'élite portugaise ont vu dans l'Union européenne la dimension la plus importante en tant qu'instrument de modernisation économique, politique et sociale. Donc, pour la plupart des Portugais, l'Union européenne est encore le cadre le plus important.
Mais le politologue est formel. Aux élections européennes de mai, il faudra s'attendre à une abstention très élevée et à un vote sanction contre la droite conservatrice au pouvoir qui soutient la politique d'austérité.
Marilyn Darcy, notre correspondante au Portugal. Dans un peu moins d'un mois, du 22 au 25 mai, que les électeurs des 28 pays membres de l'Union européenne seront donc appelés à élire leurs députés au Parlement européen, 751 au total. Au regard des défis auxquels doit faire face l'Union européenne, à la méfiance, voire au rejet, engendré notamment par les 5 ans de crise écoulés, on pourrait s'attendre à des débats publics de fond sur l'avenir de la construction européenne. Eh bien, il n'en est rien. Un livre vient de paraître sur ce sujet. Il est intitulé « Europe, réveille-toi », publié aux éditions Le Manuscrit. Son auteur est l'économiste Philippe Herzog. Nous l'avons joint au téléphone et il nous explique pourquoi ce titre.
L'Europe fait face à des mutations considérables. La mondialisation est un choc. Les mutations de nos sociétés, de la technologie sont formidables. Et donc 60 ans après, l'Union européenne a besoin d'un nouveau départ. Et par rapport à cet enjeu, effectivement, elle s'est endormie, elle n'a pas anticipé la crise, son potentiel de croissance est bas, elle manque de stratégie extérieure. Donc nous devons envisager une refondation un peu du projet et de ses bases.
Alors, la France, justement, inquiète ses voisins. Vous dites dans votre ouvrage que le président en 2012, le président français donc, n'a pas expliqué la crise aux Français et n'a donc pas de vision à long terme pour la France dans une perspective européenne. Alors, pourquoi est-ce que c'est grave ?
On le voit déjà sur la scène intérieure, puisque la déception est très grande. Et nous l'avons vécu aux élections municipales, d'ailleurs. Le nouveau gouvernement est issu d'élections qui se sont basés sur le rejet du prédécesseur, Nicolas Sarkozy, sans faire une pédagogie des réalités auprès des Français. Et sur des questions essentielles comme pourquoi accumulons-nous des déficits et une dette publique, pourquoi avons-nous des problèmes de compétitivité, cette pédagogie n'étant pas faite, la population ne comprend pas bien la situation. Elle est déboussolée. Les Français doivent comprendre que ces dettes sont le fruit de nos manquements du passé, que nous n'avons pas entrepris des réformes de structure que d'autres pays européens ont faites, et que dans ces conditions, nous sommes maintenant un pays en difficulté et qui peut aussi être un souci pour nos voisins et pour l'Europe tout entière, car pour que l'Union européenne soit capable de faire face à l'avenir, elle a besoin d'une parole française. Il y a actuellement un leadership allemand qui est incontestable. Mais pour autant, l'Allemagne aussi a besoin d'interlocuteurs qui ne se contentent pas de dire « nous voulons la croissance, nous voulons la croissance », mais qui attendent une contribution de la France. Et si en France nous continuons à jouer un peu les boucs émissaires, c'est-à-dire à dire « on nous impose des politiques d'austérité, c'est la faute à Bruxelles », alors que dans les dernières années, il y a eu quand même des efforts importants pour faire face à la crise, si on fait ça et si on n'apporte pas une contribution crédible parce que nous-mêmes entreprenons nos réformes de structure, alors nous sommes en difficulté quant à notre avenir, mais aussi nous handicapons le futur de l'Europe.
Quelle serait pour vous les priorités pour réconcilier l'Europe avec les citoyens, parce que au-delà de la France, l'euroscepticisme existe et est assez répandu tout de même dans toute l'Europe. Est-ce qu'à votre avis, il faudrait des priorités, des perspectives économiques ou alors plus de légitimité démocratique, peut-être moins de pouvoir à la Commission qui apparaît comme un bloc bureaucrate éloigné des citoyens?
Il faut les deux. Il faut répondre aux préoccupations des citoyens qui s'appellent avant tout chômage, chômage, non-insertion des jeunes dans la vie active, désindustrialisation. Donc il faut parler aux citoyens en portant la nécessité de nouvelles politiques communes en Europe. Et deuxièmement, par rapport à ça, nous devons aussi relégitimer les institutions communautaires. Donc ces deux défis sont liés, mais je dirais la priorité, c'est de dire ce que nous voulons faire ensemble. Le problème n'est pas de faire demain matin les États-Unis d'Europe, hein, il faut que ce soit clair maintenant. Nous devons rapprocher des nations autour de solidarités concrètes, actives, face à la crise, face aux mutations. Nous avons tous des problèmes de formation, de manque de compétences en Europe. Les problèmes d'industrie, j'ai parlé des industrialisations, l'appropriation du numérique, la stratégie énergétique qui est actuellement en échec, les problèmes de l'immigration, de la défense, de l'action extérieure. Il y a maintenant besoin de réponses européennes, donc effectivement de volonté politique en tout cas, dans la prochaine période, d'apporter des réponses à ces préoccupations des citoyens. Sinon, ils décrocheront.
Sinon, ils décrocheront, nous dit l'économiste Philippe Herzog, conseiller spécial du commissaire Michel Barnier. Et c'est justement l'abstention aux élections européennes qui inquiète les partis traditionnels, car elle fait le jeu des extrémistes. Terminé pour cette édition. Si vous voulez nous faire connaître votre opinion sur l'Europe et son avenir, ce qu'elle signifie pour vous, n'hésitez pas à nous écrire. Je vous rappelle notre adresse, français@dw.de. En attendant, bonne suite de programme avec la Deutsche Welle.